les versets 8 à 13, où il est écrit « L'Éternel, donc Dieu, l'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense pour, en faveur de ceux qui le craignent, de ceux qui le respectent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Amen. Sur base de ce texte et des lectures que nous avons faites, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble. Bon, réfléchir, ça vous faites maintenant. Et mettre ensemble, en commun, nos idées autour de ce texte et autour de la question de la douceur et la question de la dureté, ou de la question de la tendresse et la question de la dureté. Dès que nous voyons un enfant, en général, nous avons un élan de tendresse qui vient en nous. C'est plus fort que nous, on ne le fait pas exprès, mais un enfant, tout de suite, ça nous réjouit de voir un enfant. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion en distanciel, donc devant des écrans. C'était une réunion très sérieuse où tout le monde était très sérieux, en train de discuter de choses importantes, voilà. Et puis, il y a une dame de la réunion qui était chez elle, donc elle avait son petit bout de chou qui était là, elle l'a pris devant la caméra et tout le monde était « Oh, le petit boubou, le petit chou, le petit bout de chou !» Il n'y a rien à faire, un enfant, ça évoque pour nous la tendresse et ça nous fait beaucoup de bien. Pourtant, s'il y a une chose qui ne manque pas dans notre monde, c'est la dureté. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, nous sommes tous touchés par la tendresse, autant si nous vivons sur Terre, nous avons déjà fait l'expérience de ce que c'est que la dureté, la méchanceté ou autre. Et d'ailleurs, beaucoup de parents témoignent qu'au moment où ils ont eu leur enfant, la première crainte qu'ils ont eue, c'est de se dire « Il est tellement beau, il est tellement mignon, et je vais l'envoyer dans un monde si dur et si cruel. » Et beaucoup disent, mais dès qu'il est sorti, dès qu'on l'a vu, on a commencé à trembler, à se dire, ouh, ya, ya, mon enfant est magnifique et on vit dans un monde de tarés, excusez-moi l'expression, un monde de fous. Et voilà que mon enfant va devoir vivre et composer avec ce monde difficile. Nous avons tous connu ce qu'est la dureté. La dureté de cœur, lorsque quelqu'un nous ferme son cœur. Quand quelqu'un ferme son cœur, lorsque quelqu'un nous ferme son cœur, nous juge, ou lorsque quelqu'un emmagasine en son cœur la colère envers quelqu'un d'autre, la méchanceté, le ressentiment, l'aigreur, un cœur dur, un cœur fermé. Nous avons tous aussi dans notre vie connu ce que c'est que la dureté en parole. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, mais qu'on s'adresse à quelqu'un avec des mots qui blessent, des mots qui tuent, des mots qui sont comme des couteaux. Lorsqu'on se moque de quelqu'un, lorsqu'on évoque une difficulté chez quelqu'un pour lui faire du mal, lorsqu'on humilie quelqu'un, des mots qui blessent, des mots qui tuent, des mots qui font mal. Nous avons tous aussi, dans notre vie, connu la dureté d'un regard, un regard méprisant que quelqu'un nous jette, un regard hautain ou un regard qui nous dévisage, hein, comme on dit, un regard qui nous regarde de haut en bas et qui dit « Pouf, ça vaut pas grand-chose, ça ». Nous avons tous aussi connu la dureté d'une décision. Lorsque quelqu'un prend une décision dont il sait que ça va avoir des conséquences regrettables sur les autres, des décisions dures, des décisions difficiles, méchantes. On peut prendre par exemple le cas de dirigeants politiques qui décident d'aller faire la guerre à d'autres pays, en sachant que ça va nuire, ça va tuer des vies. Mais on s'en fiche parce que le cœur est dur, le cœur est méchant. Tous nous connaissons ce que c'est la dureté. À moins que vous viviez dans des igloos, dans des igloos, je sais pas, en marcinelle. Mais si nous ne vivons pas dans des igloos, nous savons ce que c'est la dureté. Nous connaissons aussi ce que c'est que la dureté d'un geste, un geste dur, un geste méchant. Il y a quelques années d'ici, non, il n'y a pas très longtemps, tout près d'ici, tout près de cette église, à quelques rues, il y a une école, et dans cette école, il y a une petite fille, une jeune fille, une adolescente, qui s'est suicidée. Parce que on avait partagé des images d'elle, des images dénudées d'elle, dans une relation intime. Elle avait partagé des images, et ces images ont parcouru à toute l'école, si bien qu'elle n'a pas supporté cette humiliation et qu'elle s'est suicidée. Tout près d'ici, à quelques rues d'ici. Nous connaissons ce que c'est que la dureté. Nous connaissons ce que c'est que la méchanceté. Alors il y a la méchanceté qui est volontaire, il y a la méchanceté qui est délibérée, et puis il y a la méchanceté dans laquelle on ne fait pas exprès, il y a les choses inconscientes, les choses un peu voilà, qu'on fait et qu'on réfléchit pas trop. Il y a quelques années aussi, des gens sur Internet, et ça vous le savez, hein, ne faites pas comme si vous ne le savez pas, ont lancé le Cheese Challenge. Vous savez ce que c'est le Cheese Challenge ? Ouais. Alors, Cassandra, elle sait. Donc, mais je ne sais pas quel est le bonhomme qui s'est réveillé un jour avec cette idée. Je ne sais pas. Donc, en fait, je vous explique. Hein, suivez bien. Le Cheese Challenge, ça consiste à lancer une tranche de fromage sur un enfant pour voir la réaction qu'il va avoir. Et ça a fait le tour de la toile, hein. Ça a fait le tour de la toile jusqu'à ce que des éminents professionnels se lèvent en disant « Mais vous êtes complètement fous de faire ça. » Pourquoi ? Parce que, évidemment, un enfant, il y a des enfants qui se mettent à rigoler, mais il y a plein d'enfants qui se mettent à pleurer aussi. Parce que l'enfant ne comprend pas ce que l'adulte fait de lui lancer une tranche de fromage au visage. Mais des actes comme ça, des actes un peu ridicules comme ceux-là, mais d'autres, nous ne prenons pas toujours la mesure de nous ne prenons pas toujours la mesure de la du mal que nous faisons aux autres. Certains disent, et je trouve qu'ils ont raison, que parfois être bête c'est pire que être méchant, parce que parfois dans la bêtise on fait plus de mal que dans la méchanceté. Nous connaissons tous la dureté, et pourtant autant la méchanceté et la dureté est autour de nous, autant nous sommes tous les uns et les autres des producteurs de méchanceté. Autant nous pouvons dire que nous sommes victimes de la méchanceté des autres, autant nous faisons du mal aux autres, et nous sommes aussi, que nous le voulions ou non, des sujets de souffrance pour d'autres. Autant certains souffrent de notre comportement, autant nous faisons souffrir les autres. Quand nous conduisons, il y a des gens qui nous énervent parce qu'ils font n'importe quoi, mais il nous arrive de faire n'importe quoi en conduisant. Et la Bible nous dit que la méchanceté, elle n'est pas réservée à certains hommes, mais qu'elle trouve sa source dans le cœur de l'homme. Et la Bible nous dit que tous les cœurs des humains sont atteints par la maladie du péché. Et c'est de cette maladie du péché dont est atteint le cœur de l'homme qu'émanent toutes les méchancetés que nous avons à connaître sur terre. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, le cœur de l'humain, tous les humains, nous tous réunis, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, c'est-à-dire les comportements incorrects, les meurtres, les vols, l'amour de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent, la méchanceté, la fraude, l'envie envers les autres, la jalousie, la calomnie, tout cela, nous dit la Bible, vient du cœur de l'homme. Et tous, autant que nous sommes, autant nous vivons la souffrance de la méchanceté des autres, autant nous sommes des producteurs de méchanceté, parce que nous sommes tous pécheurs. Et parce que nous sommes tous pécheurs et que le péché habite chacun de nos cœurs, nous sommes tous coupables. Tous coupables. Nous ne pouvons pas faire des camps en disant « nous sommes ceux qui font bien, il y a tous les autres, les méchants ». Tous, du point de vue de Dieu, nous sommes tous dans le même sac par rapport à notre péché, par rapport au péché qui est en nous, qui nous habite, et par rapport au péché que nous produisons, que nous commettons. Et encore une fois, si nous ne vivons pas dans des igloos, nous verrons que nous sommes tous pécheurs. Si nous nous regardons dans l'image, dans le miroir, quelques instants, nous constaterons que nous sommes tous pécheurs. Et nous constaterons aussi que la majorité des malheurs que nous vivons sur terre sont des malheurs qui viennent du cœur de l'homme, du cœur des humains. Certains se disent, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheurs dans le monde. Et c'est le contraire. Parce que Dieu a fait l'homme. Et parce que cet homme s'est détourné de Dieu, parce que nous sommes détournés de Dieu, nous sommes tous pécheurs et nous produisons à longueur de journée des actes qui déplaisent à Dieu. Des actes qui offensent Dieu. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs dès notre naissance, que nous naissons pécheurs. Nous naissons rebelles à Dieu. Et elle nous enseigne aussi que parce que nous naissons rebelles à Dieu, nous sommes tous normalement l'objet de sa colère. Et je vais évidemment contraster par rapport à ce que j'ai dit tout au début. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes les objets de la colère de Dieu. Nous sommes des enfants de rébellion, dit la Bible. Qui ? Nous tous. Des enfants de rébellion, et parce que nous sommes des enfants de rébellion, nous sommes tous appelés à nous tenir loin de la face de Dieu et à passer l'éternité loin de lui. Ça, c'est notre position de base, on devrait dire. Le temps zéro, la position initiale de tous les êtres humains, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. C'est d'être destiné à vivre en enfer pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle que nous enseigne la Bible, c'est que nous pouvons être pardonnés. C'est que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Et comme le texte le dit, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons être nettoyés de nos fautes, de nos péchés. Et le texte dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voilà le Dieu que nous célébrons aujourd'hui, c'est le Dieu qui veut pardonner. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que Dieu ne pardonne pas des gens qui sont parfaits. Il ne nous pardonne pas parce que nous sommes bien. Il nous pardonne au contraire parce que nous ne lui plaisons pas. Et il nous fait grâce. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Nous pouvons tous être pardonnés. Justement au travers de ce que nous avons célébré dans la croix de Jésus, au travers de son corps qu'il a donné à notre place, au travers de son sang qu'il a versé pour nous, nous pouvons obtenir le pardon et nous pouvons devenir enfants de Dieu. En croyant en Jésus, nous pouvons recevoir la vie éternelle. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés et être réconciliés avec Dieu. Et c'est là que le texte que nous avons lu entre en ligne de compte. Parce que le texte nous a dit, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui sont à lui. Eh bien, en recevant Jésus, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons présenter Jonas. Et nous allons présenter Jonas parce que, et les parents vont se choquer de ce que je vais dire, parce que nous croyons, et nous n'allons pas le baptiser, parce que nous croyons que Jonas n'est pas encore enfant de Dieu. Nous croyons que Jonas est l'objet de l'amour de Dieu, mais nous croyons qu'un jour il devra faire un choix, qu'il devra décider. Nous croyons que Jonas n'est pas né enfant de Dieu parce que ses parents le sont, et nous n'acceptons pas que ses parents choisissent à sa place, puisqu'il est un être libre. Pour l'instant, il est encore très dépendant d'eux. Mais c'est Jonas, un jour, qui devra faire le choix de croire ou de ne pas croire. S'il fait le choix de croire, il sera enfant de Dieu. Et s'il fait le choix de ne pas croire, il fait le choix de ne pas croire. Nous croyons que Jonas est l'objet de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la tendresse de Dieu. Mais nous croyons que sa position d'enfant de Dieu, c'est un choix qui émane de lui et que c'est lui qui doit faire ce pas, de se reconnaître lui-même comme enfant de Dieu, de se reconnaître lui-même comme quelqu'un qui est au bénéfice de la croix de Jésus-Christ. Pourtant, dès maintenant, nous pouvons tous faire l'expérience de la tendresse de Dieu acceptant sa grâce. En acceptant sa grâce. Et c'est ce que nous voulons qu'un jour Jonas puisse faire. Et nous allons prier pour cela, nous allons l'encourager dans ce sens, mais nous ne pouvons pas le forcer dans ce sens. Nous allons l'encourager, nous allons lui expliquer, pour qu'un jour il puisse lui-même décider et qu'il puisse dire, ben oui, je crois. Quand il aura 13, 14 ans, qu'il aura entendu tout ça, il aura entendu parler de la croix, Jésus est mort pour moi, est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas? Et un jour il dira oui ou il dira non. Et c'est ce que nous voulons pour chacun, que chacun puisse se positionner par rapport à la croix de Jésus et dire, est-ce que je crois que Jésus est mort à la croix pour moi ou est-ce que je n'y crois pas? Je termine en disant que la Bible nous invite, que Jésus nous invite à déposer sur lui nos fautes, nos péchés, pour recevoir son pardon, pour recevoir sa paix. Il nous invite à avoir un cœur doux. Alors un cœur doux, ce n'est pas un cœur de mielleux, ce n'est pas un cœur de gens qui ne savent pas s'affirmer. Un cœur doux, c'est un cœur qui reconnaît ses manquements, qui reconnaît ses fautes. Il dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés par vos péchés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus est doux et humble de cœur, et il nous invite à l'être aussi, vis-à-vis de lui. Un cœur qui reconnaît ses péchés, qui dit, qui reconnaît qu'il est pécheur, qui reconnaît qu'il a besoin d'être pardonné. Un cœur qui reconnaît qu'il a besoin d'être transformé. C'est ce que Dieu appelle de chacun d'entre nous, que nous puissions nous approcher de lui, reconnaissant de ce que nous sommes dans notre état de pécheur. Un cœur qui veut bien se soumettre au Seigneur, qui veut bien dire, allez, j'abandonne mon orgueil, j'abandonne ma suffisance, j'abandonne mon caractère hautain, mon arrogance, et je reçois le pardon parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Un cœur qui laisse la place à Dieu et qui laisse la place aux autres. Chacun d'entre nous, nous sommes placés dans notre vie. Et il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas ici, mais chacun d'entre nous, dans notre vie, nous sommes placés face à ce choix de recevoir le pardon de Dieu ou pas, de reconnaître nos péchés ou pas, et de recevoir le pardon de Dieu ou pas. Et la Bible nous enseigne, nous encourage à avoir un cœur doux, et elle nous dit de ne pas endurcir notre cœur, de ne pas fermer notre cœur pour recevoir le pardon de Dieu. Le Dieu qui nous aime et qui nous cherche frappe à la porte, il nous cherche. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Que répondons-nous aujourd'hui au Seigneur? Je viens à la porte et je frappe parce que je veux que tu sois mon enfant. Que répondons-nous au Seigneur? C'est la question que je veux laisser à chacun et chacune d'entre nous, pour qu'elle fasse son chemin et que nous puissions aussi, comme Jonas aura un jour à le faire, faire notre choix. Amen.